Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et lui eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les chaînes, les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec les pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Elles furent saisies de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison ». Va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Amen. Le plus grand des gagneurs d'âme, c'est le Seigneur Jésus. C'est pour atteindre les âmes perdues que Jésus a quitté le confort du ciel pour venir à la rencontre des perdus dont nous faisons partie. Dans ce texte, Jésus nous montre cette passion qu'il a pour les âmes. Jésus nous enseigne non seulement par ses paroles, mais par ses actes. Si vous avez l'occasion de lire, de reprendre un petit peu les versets qui se trouvent avant, nous le voyons tranquillement assis avec les disciples, en train de les enseigner sur le semeur, sur la lampe, sur d'autres paraboles. Et ils étaient heureux dans cette atmosphère, avec le Seigneur Jésus. C'est un petit peu comme nous, n'est-ce pas agréable de nous asseoir aux pieds du Seigneur, d'entendre les études de sa parole. Et ça, c'est vraiment la passion de nos cœurs. Mais voilà que nous lisons ce jour-là même, le soir, après une si belle journée, un si beau séminaire avec Jésus, le meilleur des pasteurs, la plus belle des églises, 12 frères là avec le meilleur des pasteurs. Eh bien voilà, Jésus entraîne soudain ces gens, cette église, à faire quelque chose d'illogique, d'inconcevable, d'anormal. On va se lever et on va prendre la barque et on va aller de l'autre côté. C'est le soir, hein, vous regardez ce texte, c'est le soir. Je pense que c'est absolument pas du tout raisonnable. Pourquoi le soir? Et en plus, quand ils ont pris la mer et qu'ils sont passés de l'autre côté, il y avait la tempête. C'est vraiment pas raisonnable, Jésus, de faire une chose semblable. C'était pas facile de faire face à la fatigue, aux ténèbres, aux vagues, à la mort qui pouvait les atteindre. Et pourquoi faire? Aller de l'autre côté avec le seul but de rencontrer une âme. C'est le seul but, parce que vous avez remarqué que dans la lecture que nous avons faite, après, Jésus est remonté dans la barque pour retourner de l'autre côté. Il n'y avait que cette raison d'être que de traverser une mer en tempête, d'affronter les ténèbres pour rencontrer une seule âme. Je suis émerveillé devant la grandeur de l'amour de Jésus et la passion qu'il a, le prix qu'il paye pour nous arracher de notre perdition. Et quand nous regardons cet homme, franchement, c'est le plus vilain du coin. Celui qu'on a envie d'éviter, celui, si on le rencontre, on change de trottoir. Il est complètement fou. Il est possédé de toute une légion d'anges. On a essayé tous les moyens pour pouvoir le sortir de là, mais les uns les autres, la société avait jeté l'éponge le concernant. Maintenant, on le laisse délivrer des chaînes physiques, mais dans les chaînes profondes de sa détresse, des démons est vivant comme un mort vivant au milieu des morts, là-bas, au cimetière du village. Et c'est pour cela que Jésus est venu. C'est pour cela que Jésus est venu. Non seulement Jésus, c'est le plus grand des gagneurs d'âmes de tous les temps, mais il veut le communiquer à l'Église. Il a dit à ses disciples, « Bon, on y va ensemble, allons de l'autre côté. » Il les a entraînés et chacun a contribué à ce voyage. Et je crois de tout mon cœur que c'est ce que le Seigneur Jésus veut aussi communiquer à nous aussi, l'Église de Arles, de Nîmes, à chacun d'entre nous et à notre ensemble, au corps de l'Église, à la barque de l'Église avec lui au milieu, allons à la rencontre des perdus. La réaction de ses disciples, c'est sûr que au plus profond de nous, enfin de ses disciples, je vous ai donné l'imagination de ce qu'aurait pu être leur réaction dans la demande de Jésus, face à la demande de Jésus, mais finalement, une image merveilleuse qu'il nous faut prendre en exemple, ils ont obéi au Seigneur. Ça paraît irraisonnable, mais il nous est dit dans ce verset qu'ils se sont levés et ils ont préparé la barque. Ils ont quitté le lieu du confort pour aller avec Jésus. Notre obéissance à aller atteindre les âmes perdues est toute à la gloire de Dieu. J'ai entendu ce matin avec vous plusieurs expressions de dons spirituels nous orientant dans cette direction. Et tant que Jésus ne sera pas revenu, c'est vraiment, frères et sœurs, la seule raison d'être de l'Église sur terre. Le seul mot d'ordre du Seigneur Jésus quand il a quitté la terre après le tout accompli, c'est d'être ses témoins. La seule richesse qu'il nous donne pour accomplir une telle chose, ajoutée à cet ordre, c'est de dire « Attendez, recevez la puissance du Saint-Esprit pour accomplir la seule et l'unique mission pour laquelle je vous laisse sur terre. » Autrement, à quoi cela sert de rester sur terre? Autant, dès qu'on connaît le Seigneur Jésus, qu'il fasse le miracle de nous faire rejoindre le ciel. C'est ce que l'apôtre Paul dit, « Je serai bien mieux avec le Seigneur qu'au milieu des vicissitudes, les problèmes que représente notre monde. » Il veut nous entraîner dans la passion des âmes. Est-ce que l'Église veut retrouver si elle a perdu ou si elle n'a pas perdu cette passion, veut-elle continuer à veiller à ne jamais, jamais diminuer dans cet enthousiasme et dans cette passion pour les âmes perdues? C'est tellement important. Quand Jésus est arrivé de l'autre côté, ils ont fait face à cet homme. Et quelquefois dans l'atteinte des âmes, peut-être que serions-nous tentés à faire de la sélection. Mais je pense que si on fait de la sélection, on est tous humains. Il y a des personnes qui peuvent nous attirer et d'autres qui nous rebutent un petit peu, pour une raison ou pour une autre. Je pense que cet homme-là fait partie de ceux qui pourraient éventuellement me rebuter et rebuter d'autres. Personne. Parce que les premiers versets qui nous décrivent cet homme nous est dit, il était violent, il était possédé, etc., etc. Ça, c'est le premier regard que nous pouvons avoir sur ce monde déchu, sur les scandales qui nous entourent, sur la violence, sur la haine qu'il y a autour de nous, tout ce qui est contraire à nous, chrétiens, à nous, à nos valeurs. Ça nous rebute, toutes ces choses-là. Mais un deuxième regard. Quand la caméra de la Bible, de la parole de Dieu, nous montre plus en détail, avec un focus plus proche sur cet homme, bien nous voyons les versets suivants. Nous voyons que cet homme, bien, il s'approche de Jésus. Dans son combat contre les ténèbres qui l'oppressait, eh bien, il nous est dit qu'il a couru vers Jésus. Il y a dans la lutte de chacune des personnes ce désir et en même temps de connaître le Seigneur, mais d'être aussi pris dans la détresse du péché et des ténèbres. Mais il y a ce désir, et cet homme court vers Jésus. Il y a un combat intérieur, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Les démons s'expriment, et la première nature mauvaise s'exprime, mais en même temps, on voit cet homme qui recherche puisse le Seigneur nous permettre de voir au-delà du visible, le besoin des âmes. Jésus, là, commande à la puissance des ténèbres de s'en aller. Il ne secoue pas cet homme-là, il ne lui fait pas de mal, ce n'est pas contre lui, mais c'est contre la puissance des ténèbres. Jésus accueille cet homme qui vient vers lui et Jésus le délivre. Quel amour, quelle puissance extraordinaire manifestée par le Seigneur Jésus. Alors, je disais tout à l'heure, Jésus, c'est le meilleur des gagneurs d'âme. Je disais que son désir, c'est de nous entraîner en tant qu'Église dans cette même vision des âmes. Dans l'Église, dans sa globalité, dans son ensemble. Mais maintenant, pour terminer, je voudrais dire que Jésus voudrait entraîner l'individu, chacun d'une manière personnelle, à être un gagneur d'âme. Personnel. Alors, en cela, regardons un instant l'exemple de cet homme. Comme pour chacun d'entre nous, cet homme a goûté à la grâce merveilleuse, imméritée du Seigneur. Il est assis, vêtu et dans son bon sens. La puissance transformatrice, miraculeuse du Seigneur à la rencontre d'une âme. C'est ce qu'il a fait pour moi quand j'avais 16 ans. C'est ce qu'il a fait pour vous, chacun d'entre vous, certainement, d'une manière personnelle. Et regardez comment cet homme, ce chrétien en quelque sorte, nous nous mettons à sa place, réagit. Il est émerveillé. Il est bouleversé. Il est saisi par la grâce extraordinaire du Seigneur Jésus à son égard. Il vient aux pieds de Jésus. Il ne peut pas rendre au Seigneur quoi que ce soit, mais sinon dans un élan de gratitude. Il dit, Seigneur Jésus, tu as changé ma vie. Je voudrais maintenant m'attacher à toi, rester avec toi, ressonder les versets. Il est dit, il lui demanda la permission de rester avec lui, de le suivre, de faire partie de cette petite troupe qui va avec le Seigneur Jésus. Il dit, je veux te servir, je veux t'aimer, je veux grandir à tes côtés, je veux être à ta disposition, je veux marcher dans un nouveau chemin et avec toi et à tes côtés. Ça, c'est formidable. C'est tout cela, c'est à partir de l'élan de la réponse, de son amour à l'amour premier du Seigneur Jésus à son égard. Puisse le Seigneur nous permettre d'être toujours reconnaissants de cette manière-là. Que les années passent, mais que nous soyons toujours comme tellement sensibles, bouleversés, émotionnés, en nous rappelant d'où le Seigneur nous a sortis. Que jamais nous ne devenions des chrétiens cyniques, blasés, des religieux de la Pentecôte. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Cet homme dans cette passion est venu vers le Seigneur et se met à sa disposition. Et Jésus dit à l'individuel, à lui comme à chacun, et ce matin à moi-même, tu sais, j'ai un but pour toi. Le même but individuellement, d'être un gagneur d'âme, comme le but que je voudrais communiquer à l'église locale, au groupe de croyants, mais à toi aussi. Je voudrais que tu puisses avoir la même passion, la même compréhension de ta destinée sur terre. Et Jésus lui dit spécifiquement, va raconter aux tiens comment le Seigneur a exercé sa grâce et a eu pitié de toi. C'est constant dans l'ordre du Seigneur Jésus, que ce soit pour l'Église ou que ce soit pour moi ce matin. Je veux entendre la voix de Dieu, la voix du Seigneur Jésus résonner dans mon cœur. Sans lui, eh bien, nos vies ressemblent à cet homme, tournant en rond dans le cimetière, sans but et sous le poids, l'emprise ténébreuse. Mais quand Jésus vient dans nos vies, les choses changent, la lumière jaillit, et il y a soudain une compréhension du bonheur de la vie. La vie est belle. Elle est belle avec Jésus. La vie a un sens avec Jésus. Et le restant de ma vie sur terre a un sens aussi. Je veux rester avec toi, Jésus. Et je veux être à ta disposition. Je veux faire quelque chose qui puisse être en harmonie avec l'intention de ton cœur pour les hommes, pour l'humanité et pour moi, homme, individuellement. Jésus lui a dit, va vers les tiens. Mon frère, ma sœur, mes bien-aimés de l'église d'Arles, Dieu vous fait résonner dans vos cœurs le même mot d'ordre. Va vers les tiens. Va vers les tiens. Est-ce que toute ta famille, mon frère, ma sœur, connaît le message de l'Évangile. Qu'ils répondent ou non. Mais as-tu déjà pris cet ordre du Seigneur à aller vers les tiens? Je me souviens de quand je m'étais converti à Montpellier à l'âge de 16 ans, donc je me suis dit dans mon cœur, avec le Seigneur, avec cette passion et cette reconnaissance de son salut hein, pour moi, j'étais encore au lycée et je dis Seigneur, on rentre là pour cette nouvelle année, mais je me donne ce défi avec ta grâce qu'aucun de ma classe ne sera sans avoir eu l'occasion d'entendre le témoignage que je leur apporte. Et dans la trentaine, 35 garçons de ma classe, je me suis donné ce défi que durant toute l'année, un par un, je vais trouver le moyen dans une récréation, à la sortie, je ne sais pas, à quel moyen de pouvoir engager une conversation et parler avec mes camarades du Seigneur Jésus. Personne ne m'avait donné cet ordre. Mais ça jaillissait du cœur. Ça, je vous donne là un exemple, mais je suis sûr que chacun d'entre nous avons un cadre de vie, un monde à atteindre, qui nous est très personnel et qu'un autre croyant ne pourra jamais atteindre. Une autre famille, lui, il est responsable de la sienne. Moi, je suis responsable des miens. Il a un autre cadre de service, de travail, d'entreprise. C'est son monde, mais le mien. Va dans ton monde. Va auprès des tiens. Va dans ton quartier. Sois un témoin de Jésus. Cet homme, la Bible nous dit qu'il est parti. Il est resté avec le cœur, avec le Seigneur Jésus. Jésus n'était plus présent physiquement avec lui, mais ça le transportait, cela, pour le reste de sa vie. Et non seulement il a témoigné aux siens, mais la Bible dit qu'il alla dans la Décapole. La Décapole, c'est toute une région de 10 villes. Dix villes, où lui, il a été partout pour proclamer la grâce qu'il a reçue du Seigneur et la délivrance. C'est extraordinaire de voir comment l'élan de reconnaissance d'avoir été sauvé par grâce sans mérite et que nous cultivons cela dans notre cœur par notre relation personnelle avec le Seigneur, avec le secours du Saint-Esprit qui nous apporte cette vie surnaturelle et divine d'une manière personnelle. Comment c'est extraordinaire que cela puisse nous porter à faire des exploits dans le domaine du témoignage. Nous ne pourrons pas nous taire quand il y a un feu brûlant, le feu de la passion de Dieu qui brûle dans notre cœur et qui découle de la gratitude que nous avons d'avoir été sauvés par grâce. Jésus est le meilleur des gagneurs d'âme. L'Église est appelée à affronter les ténèbres de la nuit, les dangers, avec la présence de Jésus en son sein, et est appelée à faire la même chose. Et chacun d'entre nous, en retour du salut personnel que nous avons reçu de Jésus, nous devons être des gagneurs d'âme. Avons-nous gardé chacun d'entre nous le sens de la destinée de notre vie? Si nous avons un autre objectif sur terre, nous ne sommes pas en harmonie avec le cœur du Seigneur. Nous devons être des gagneurs d'âme, d'une manière ou d'une autre. Je voudrais tellement que ce matin, le Seigneur puisse faire résonner dans le cœur de certains jeunes, de certains couples, l'appel au service de Dieu quant à la prédication de l'Évangile. Il y a un besoin plus que jamais d'aller confronter des démoniaques de Gadara dans notre monde moderne. Que Dieu fasse résonner l'appel de Dieu. C'est la meilleure des choses. S'il y a des jeunes qui sont en train de se questionner sur le sens de leur vie, mettez-vous devant le Seigneur. Et peut-être que justement, si tu t'es senti si insatisfait, sans savoir quel est le sens de ta vie, peut-être alors que là, dans le secret et dans l'intimité, dans le face-à-face avec le Seigneur, Dieu va te dire, mais tu ne le savais pas, tu n'as jamais fait attention, mais je t'avais destiné pour répondre au service de Dieu. Ce serait tellement extraordinaire. Mais on ne sert pas seulement le Seigneur que dans ce domaine. Chacun d'entre nous, nous devons vérifier si le sens de notre vie, que je sois un entrepreneur ici, un ouvrier par là, ou n'importe, est-ce que tout cela... C'est pour vivre, c'est pour s'exprimer dans cette vie d'ici-bas, mais même là-dedans, est-ce que le sens profond de tout ce que je vis a pour but suprême d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain en lui apportant le salut? C'est le moment pour nous, pour moi encore, alors que je viens administrativement de passer à la retraite, de m'asseoir et de dire, Seigneur, ne me permets pas de vivre en dehors de la destinée que tu as pour moi, qu'elle s'exprime d'une manière spécifique, comme Jésus a dit à cet homme qui dit, moi je veux te servir et mon souhait c'est de pouvoir te suivre comme les 12 autres disciples là. Mais Jésus lui a dit, oui, tu as raison, mais moi j'ai quelque chose de spécifique pour toi, qui va dans le même sens, celui de servir, celui d'être un témoin. Mais voilà pour toi, c'est comme cela. Et chacun d'entre nous, nous sommes si différents. Nous avons un cadre, une personnalité, des circonstances complètement différentes. Mais il nous faut absolument voir si nous vivons vraiment le sens de servir le Seigneur pour être un témoin de l'Évangile. peut-être par mon argent soutenant d'autres, peut-être par ma vie de prière, etc., etc. Mais il faut que je contribue dans ce sens-là, au salut des âmes. Une dernière parole concernant le meilleur des gagneurs d'âmes. Dans Hébreux, vous le chercherez, ce passage, où la Bible dit au sujet de Jésus, de la réaction de Jésus. Jésus a dit ceci à son Père. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Elle dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et ces paroles, je veux les prendre pour moi. Et ces paroles, l'Église locale doit la prendre, doit les prendre pour elle. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni des choses grandiloquentes, mais tu nous as formés. Tu as formé un corps à Arles. Le corps de l'Église locale, tu m'as formé un corps et l'Église dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et chacun d'entre nous individuellement, tel que je suis, tel que vous êtes, dans le cadre, moi, petit Vietnamien, venant du Vietnam à l'âge de 10 ans, eh bien, tu m'as formé un corps. Me voici, Seigneur. Et puis Dieu m'a permis d'être là-bas, de l'autre côté, en Polynésie. Mais chacun d'entre nous, tu m'as fait homme, tu m'as fait de telle manière, tu m'as fait femme, tu m'as permis de naître dans telle circonstance, dans tel cadre. Me voici, ô Dieu. Comme ce démoniaque de Gadara, je viens vers toi, me voici, ô Dieu, je peux te présenter éventuellement mes aspirations dans le service, mais malgré tout, je suis à ta disposition. Et ce que tu me donnes sera toujours un défi, ce sera toujours pas complètement facile comme je l'aurais aimé, parce que c'est un défi ce qu'il a fait là, de relever. Eh bien, soyons des courageux. Soyons des héros pour notre monde et pour notre Seigneur. Et le jour viendra où la trompette sonnera et où ton nom, le mien, sera appelé et nous serons devant lui. Nous jetterons nos couronnes devant lui, nous courberons devant lui avec plein de d'effusion, nous l'adorerons pour ce qu'il a fait pour nous. Et alors nous entendrons de sa bouche nous dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je voudrais jusqu'au dernier souffle de ma vie lui rester fidèle. Je veux jusqu'au dernier souffle de ma vie utiliser mes forces pour contribuer au témoignage de l'Évangile d'une manière ou d'une autre. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Excusez-moi si nous avons un peu dépassé l'heure, mais voilà, hein, ce sont des paroles que le Seigneur puisse les appliquer sur nos vies et nous poursuivre encore avec cela jusqu'à ce que nous puissions dire Seigneur, eh bien, je ne te lâcherai pas et je te servirai toujours. Amen.